France Inter, le 18-20.
Le tic-tac de l'horloge biologique, pour nous les femmes, ça veut dire l'enfant quand je veux, d'accord, mais enfin, ça a quand même ses limites. Et les limites, elles disent plein de choses. Elles disent aussi, j'ai un travail passionnant, je veux pas m'arrêter, en tout cas pas maintenant. J'ai d'autres projets là tout de suite, mais après je dis pas non. Elle dit aussi, c'est pas parce que j'approche la quarantaine que je vais faire un enfant avec le premier venu, sinon après, ce sera trop tard. C'est pas une histoire de convenance, c'est pas une histoire de caprice, c'est très réfléchi de faire un enfant, et c'est surtout une histoire de société qui devrait aussi d'ailleurs concerner les hommes comme les femmes. Les États-Unis, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne autorisent la congélation des ovocytes pour celles qui veulent attendre. En France, on ne l'autorise que pour raison médicale. Et en réalité, comme toujours, en attendant, eh bien celles qui le souhaitent vont recourir à cette congélation à l'étranger. Alors pourquoi ces noms chez nous? Qu'est-ce qui bloque? Quelles limites faut-il fixer? Faut-il ouvrir la congélation des ovocytes sans condition? Le sujet est débattu dans le cadre des états généraux de la bioéthique et ici aussi ce soir. Bienvenue.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Larissa, c'est vous qui commencez. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors voilà, moi je vous appelle pour vous dire que j'ai congelé mes ovocytes à l'âge de 30 ans à l'hôpital universitaire de Bruxelles, après avoir consulté en France à l'hôpital Saint-Louis et avoir entendu mes médecins me dire « je ne peux pas vous faire l'autoconservation ». Sauf si vous êtes sur le point vraiment d'avoir une chirurgie des ovaires ou une chimiothérapie. Je suis très énervée, je sais faire, je veux faire et je ne peux pas faire. Je vous conseille d'aller le faire en Espagne ou en Belgique. Voilà, et donc je me suis informée et puis je me suis rendue en Belgique où j'ai pu réaliser une autoconservation de 20 ovocytes en un seul cycle.
Et c'est facile, voilà. Dites-nous les choses comme ça, Larissa. Est-ce que c'était facile? Est-ce que la démarche était facile? Est-ce qu'elle était simple? Est-ce qu'elle était rapide? Ça se passe comment?
Eh bien oui, écoutez, j'ai appelé en mois d'avril 2016. J'ai eu rendez-vous au mois de juillet. J'ai vu d'abord un psychologue, puis j'ai vu une infirmière. On m'a expliqué le protocole. J'ai vu ensuite les médecins. On m'a donné la seringue. On m'a prescrit, donné les ordonnances, les prises de sang à faire, l'échographie. Et puis j'ai choisi le cycle qui m'intéressait. C'était le cycle d'octobre. Et donc voilà, au deuxième jour du cycle, j'ai fait un prélèvement sanguin. Ensuite, j'ai commencé la stimulation ovarienne avec les injections. Ça a duré 9 jours. Ensuite, j'avais le cycle à faire matin et soir, le bloqueur de ovocytes le matin, la stimulation le soir. 2 jours plus tard, j'ai refait une échographie, j'ai refait un bilan sanguin. J'ai envoyé ça à Bruxelles et on a fixé le jour du déclenchement et le jour du prélèvement. 36 heures plus tard, j'étais au bloc à Bruxelles et j'avais le prélèvement.
Et là,
c'était en ambulatoire et le soir, j'étais chez moi.
D'accord. Et la raison, Larissa, pour laquelle vous vouliez attendre, tout simplement, c'était par sécurité, en vous disant comme ça j'aurais le choix, c'était quoi la raison principale?
Eh bien, je me suis informée, je m'intéresse un peu à la PMA, j'ai été informée plutôt de la baisse de la fertilité ovarienne avec l'âge qui commence à 30 ans et qui s'accélère de manière très impressionnante après 35 ans. Voilà, j'avais un projet d'enfant mais pas forcément tout de suite et donc j'ai voulu me prémunir d'un éventuel parcours de PMA extrêmement compliqué et long qui est réservé aux femmes en France quand elles consultent après 35 ans.
Tout est clair et merci beaucoup pour ce témoignage, Larissa. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de nous dire, plein de choses qui vont éclairer les gens qui nous écoutent et nous permettre de démarrer ce débat autour de nous pour en discuter ce soir. Joëlle Bellèche-Allard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier de Saint-Cloud. Bonsoir Laurence Brunet. Juriste, spécialiste en droit de la famille, chercheuse à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Et bonsoir Daniel Messager, chef du service santé de France Inter. Qu'est-ce qu'on peut dire de Larissa qui, j'allais dire, a fait les choses bien? Enfin, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Qui veut commencer? Laurence Brunet, par exemple, 30 ans. Ça se passe à Bruxelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que le médecin qu'elle voit d'abord lui dit « moi, je peux pas le faire, mais voilà comment ça se passe ». Allez-y, Laurence Brunet.
Non, ce ne sera pas Laurence. Alors,
ah, pardon, c'est dans l'autre sens. Excusez-moi.
C'est pas grave.
Aucune importance.
Ouais, je pense que c'est très très bien et que la situation a été bien expliquée par cette jeune femme. Il faut savoir que c'est vrai que le désir tardif d'enfant est de plus en plus tardif. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les femmes ne sont pas toujours responsables. Et que la majeure cause de ce report tardif, et on le voit bien maintenant dans toutes les enquêtes sur l'autoconservation, ça n'est pas parce que la femme veut faire carrière. C'est simplement parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme idéal, celui avec qui elle veut faire un enfant. Et les enquêtes américaines, les enquêtes australiennes sur les femmes qui ont fait l'autoconservation montrent que le principal motif, c'est cela. C'est de se retrouver à 35 ans, comme le dit si bien votre auditrice, l'horloge biologique tourne, on a moins de chance. Et c'est vrai que ça vaut la peine de faire cette préservation.
Moi, ce que je trouve assez étonnant dans ce qu'elle nous raconte, et c'est ce que disent beaucoup de témoignages d'ailleurs qu'on peut lire ici et là, c'est son médecin qui lui dit, ben voilà la démarche, parce que moi je ne vais pas pouvoir le faire pour vous, mais voilà la démarche. Donc il lui explique quasiment, voilà comment tu vas devoir faire, c'est-à-dire traverser la frontière, aller en Belgique ou ailleurs.
Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les femmes viennent nous voir de plus en plus tard. Nous savons parfaitement que la chute de la fertilité est une certitude, et chez la femme et chez l'homme. Et on propose quoi à ces femmes? Le don d'ovocytes quand il est trop tard, l'ovocyte d'une autre femme. C'est vraiment pas logique. Si elles avaient pu avoir des ovocytes à elles congelés, on pourrait sans aucun problème les utiliser ultérieurement. Donc, c'est vrai que nous sommes démunis vis-à-vis de ces femmes et qu'on leur dit la vérité. Oui, l'autoconservation est possible. C'est pas un espoir à 100%. C'est possible, mais pas chez nous.
Est-ce que vous le dites souvent, d'ailleurs? Est-ce que ce sont des demandes qui sont de plus en plus fréquentes ou pas?
Ce sont des demandes de plus en plus fréquentes, mais les femmes savent que nous ne pouvons rien faire pour le moment.
Laurence Brunet, qu'est-ce qui freine pour l'instant, en fait? C'est où le problème?
Je pense que dans la loi, depuis le départ, bon, c'est la loi qui freine. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un paradigme en France juridique qui vraiment limite extrêmement la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps, pour le dire de manière un peu caricaturale. Et donc, on a une espèce de crainte que les femmes procrastinent, qu'elles fassent des enfants trop tard. Enfin, on vit sur des espèces de figures qui n'ont jamais été vérifiées, peut-être de fantasmes. Et donc, cette idée que les femmes pourraient repousser trop tardivement leur grossesse et que finalement, elles pourraient trop profiter de la vie, que quelque part, elles pourraient finalement faire comme
être
les hommes.
Être l'égal de l'homme,
c'est quelque chose qui bloque. Donc, on a quand même l'impression que quand il n'y a pas de raison médicale, il faut absolument pas que la médecine intervienne.
Mais maman, le comité champ d'éthique a parlé pour dire non à un moment. Qu'est-ce qu'il disait, lui, concrètement, en fait? Ses arguments disaient quoi?
Allez-y. C'est vrai que le comité d'éthique vient de dire non, mais il y avait un groupe de travail précédent, dont je faisais partie, on s'apprêtait à dire oui. Donc on voit bien que c'est un avis humain dépendant. Le comité d'éthique a dit qu'il y avait des risques à la stimulation de l'ovulation. Ils existent, mais ils sont très faibles. Le comité d'éthique a parlé de pression des employeurs. Nous ne pensons pas que ce soit ça. Le comité d'éthique a parlé de risque de cancer du sein. Les dernières enquêtes sont formelles. Il n'y a pas d'augmentation du cancer du sein liée à ces traitements. On a bien l'impression que cette version du comité d'éthique a pris une réponse négative. Le comité d'éthique précédent allait répondre oui. Alors que vaut une éthique qui est humain dépendant? J'avoue que je m'interroge.
Au demeurant, quand même, je voudrais souligner les contradictions dans l'avis du comité d'éthique, parce que le comité d'éthique a une grille de lecture qui consiste à dire qu'il faut éviter toute rupture, en particulier les ruptures génétiques. Donc favorisons tout ce qui peut permettre une sorte de continuité, parce qu'on sait que le don d'ovocytes, c'est quand même pas facile. Et au moment de tirer les conclusions de cette grille de lecture, il dit « Ah ben non, finalement, je mets à l'écart toute la grille de lecture que j'ai développée, et au lieu de, au contraire, dire que l'autoconservation des ovocytes permettrait d'éviter tout type de rupture génétique, il dit « Ah non, c'est trop dangereux ». Comme si c'était l'Académie de médecine qui parlait. Ce qui est même assez surprenant.
Daniel Messager, d'abord.
Mais l'Académie de médecine s'était prononcée en faveur.
En faveur,
oui,
justement.
Voilà, c'est ça. L'Académie de médecine, oui. Le comité d'éthique, non.
Alors, c'est ça qui est quand même...
Le Collège national des gynéco-obstétriciens a pris, depuis 2012, un avis en faveur. Et nous venons de refaire une enquête en juillet 2017. 80% des gynécos et obstétriciens de France sont favorables à l'autoconservation.
Il y avait un argument qui était intéressant que soulevait l'Académie de médecine, c'est que dans la pratique, les femmes ont le droit de conserver quelques ovocytes pour elles quand elles sont donneuses. Quand elles sont donneuses pour les femmes qui, justement, ne peuvent plus, elles, en avoir par elles-mêmes.
Les femmes sans
enfants. C'est quand même extrêmement hypocrite, les femmes sans enfants. Parce que si elles produisent beaucoup d'ovocytes, c'est une espèce de récompense, comme ça, on va leur dire, voilà, vous en avez produit beaucoup, c'est bien, vous avez bien travaillé, vous avez le droit d'en avoir quelques-uns pour vous. Mais par l'Académie de médecine, ça a été reconnu comme une espèce de chantage. Donc, je trouve que c'était un argument intéressant aussi que soulevait l'Académie de médecine.
On reviendra dans un instant sur ce que vous avez dit sur la fameuse pression des employeurs qui a été utilisée notamment par le comité d'éthique, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, notamment au niveau des GAFA. Je voudrais d'abord qu'on refasse un aller-retour au standard. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir à tous et à toutes. Ma question, au-delà du, en termes de droit, je trouve qu'on devrait laisser les femmes pouvoir choisir quand la science leur permet de faire des choses ce qu'elles veulent avec leur corps en termes de procréation. Par contre, moi, la question que je me pose au-delà de ça, c'est être une maman après d'un enfant de 10 ans quand on a 50, 55 ans, est-ce que ces femmes qui congèlent leurs ovocytes pour être maman plus tard, est-ce qu'elles se posent cette question?
Alors, c'est une bonne question, Sylvie. Tout le monde lève la main autour de la table, là. Donc, on va faire... Vous aviez fini, Sylvie, pardon, je vous ai interrompu.
précise juste que moi, j'ai deux grands de 27 et 24 et une petite de 9 et que j'ai 52 ans.
Voilà.
Donc, voilà.
Et ça se passe bien avec la petite de 9 autant qu'avec celle
oui,
de 27?
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais parce que j'avais les deux premiers qui ont servi de tuteur. Mais commencer tard après pour élever un enfant, enfin, voilà, quand on peut avoir aussi des aspirations à pouvoir voyager, à pouvoir, enfin, voilà, c'est des contraintes qui arrivent plus tard.
Eh ben, c'est une question et on la pose autour de la table. Sylvie, merci beaucoup. Joëlle Bellechalard, sur la limite d'âge.
Alors, la limite d'âge. Les femmes sont beaucoup plus raisonnables qu'on ne le pense. Il y a des enquêtes européennes sur ce sujet. L'âge idéal d'être maman, c'est avant 45 ans. Alors, il y aura peut-être quelques exceptions qu'on pourrait encadrer. Par exemple, au Collège National des Gynéco-Obstétriciens, on a dit il y a un âge idéal avant 45 ans pour reprendre les ovocytes, éventuellement jusqu'à 50 si la femme est informée des risques, parce qu'on trouvait qu'il ne fallait pas qu'il y ait une limite à 40. 45 piles, et puis que celle qui a 45 et un jour, elle, on lui dise non, et celle qui a 44 et 9 mois, alors qu'elle est obèse, hypertendue, et que la grossesse sera dangereuse. Il ne fallait pas que celle-là, on la prenne. Donc, je crois qu'il y a des limites, et qu'il faut un peu faire confiance aux femmes.
Belgique, 47 ans, Espagne, 50 ans. Voilà ce qu'on dit nos voisins.
Mais les femmes pensent exactement ça. Nous, on a fait une étude au centre d'éthique clinique, à l'hôpital Cochin, et les femmes qu'on a interrogées nous disent exactement ça. Elles n'ont pas envie d'être des vieilles mères. Elles sont totalement conscientes des risques, de la pénibilité, de la fatigue, du fait qu'elles auront moins de punch. Elles veulent juste décaler la fenêtre de quelques années pour pouvoir, ben on va en parler, à la fois rencontrer l'homme de leur vie, parce que c'est quand même la conjugalité qui est le principal problème, ou la femme de leur vie, et puis aussi pouvoir profiter, trouver un travail et profiter de la vie comme les hommes. Donc il ne s'agit pas du tout d'étendre la période procréative à l'infini. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Ce n'est pas une révolution anthropologique, on ne parle pas de ça.
On n'est pas dans ces caricatures qu'on a pu voir, notamment en Italie et ailleurs, qui étaient des cas extrêmement particuliers et longuement discutés.
C'est pas le rêve.
Alors, la précédente auditrice posait la question de l'âge, qui est une bonne question. Bah vous avez répondu. Est-ce qu'il y a une question éthique autour de l'autoconservation des ovocytes? Est-ce que cette question éthique, ça pourrait être, par exemple, est-ce qu'il y a malfaisance si c'était autorisé? Alors, j'aimerais bien avoir votre réponse.
Bah, justement, c'est la question qu'on a posée aux femmes qu'on a interrogées et on en a conclu qu'il n'y avait aucun argument éthique contre. Voilà, il n'y a pas d'argument pour s'opposer. Hein. Après, il y a des arguments éthiques en faveur justement de l'autorisation, sous réserve bien sûr que tout ça, ça soit encadré et qu'il y ait de l'information qui soit diffusée à bon escient et que les femmes soient informées non seulement du fait que l'horloge biologique s'arrête assez tôt, mais que voilà, cette autoconservation, c'est pas forcément la panacée. On doit une bonne information aux femmes, c'est ça qu'elles demandent. Sinon, sur le reste, je pense que elles sont suffisamment autonomes, grandes et matures pour pouvoir décider une fois qu'elles ont les bonnes informations.
Joël Bellechaleur.
Oui, j'allais ajouter, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Laurence, mais en plus là, il y a une seule question éthique, c'est comment l'autoriser, car il n'y a pas de raison de l'interdire sans l'encourager. Il faut continuer effectivement à dire aux femmes que c'est quand même plus facile de faire leur enfant sous la couette un peu plus tôt. Mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire, donc il faut qu'elles le puissent. Je crois qu'il reste qu'une seule vraie question à mes yeux, c'est qui doit le prendre en charge. Alors c'est pas tout à fait de l'éthique, mais c'est une question de société.
Donc rembourser par rembourser. Et vous dites quoi, Joël Bellechaleur?
Je crois que non. On ne peut pas tout demander à la sécurité sociale. Mais si la femme, actuellement à 40 ans, vient nous voir pour faire une FIV et qu'elle a des ovocytes autoconservés d'avant, en France, la FIV est prise en charge à 100%. On la prendra en charge. Donc, il faut dissocier la congélation de la réutilisation qui, elle, sera prise en charge comme tout traitement de l'infertilité.
Laurence Brunet, sur le remboursement.
Oui, dans l'enquête, les femmes et les gynécologues étaient partagées, mais effectivement, tout le monde était sensible au fait que la sécurité sociale ne pouvait pas tout prendre en charge. Et que cette idée que finalement, les frais qui seraient finalement, qui reviendraient à la charge de la femme, ça serait simplement la stimulation et la conservation, et pas ensuite la fécondation in vitro, parce qu'on rentrerait ensuite dans le cadre légal, c'était quelque chose qui paraissait être un juste milieu acceptable, même si effectivement, ça veut dire que, bon, c'est quand même quelques milliers d'euros de le faire. Les prix peuvent baisser.
C'est combien de milliers d'euros d'ailleurs?
C'est autour de 2000
euros. Et
pour la première, 3000
voilà, si elles
refont. Faire deux. Voilà,
mais actuellement, les femmes dépensent le voyage à l'étranger, le séjour. On pourrait le faire tellement simplement. Et dans tous les centres publics ou privés français, nous avons la capacité.
Daniel.
Mais pour dire à quel point, et là, il y a un médecin à côté, je pense que vous ne me démentirez pas, docteur Joël Bellechaleur, pour dire à quel point les médecins sont mal à l'aise avec ça, il y a des gynécologues qui prescrivent les médicaments, la stimulation qu'il faut faire avant cette autoconservation, puisque c'est prescrit en France et remboursé en France. Donc il y a quand même une grosse hypocrisie. Il y a aussi des médecins qui vont jusqu'à pratiquer cette autoconservation sous un prétexte XY, oui, en disant qu'on a trouvé un petit peu d'endométriose et que ce serait bien finalement d'autoconserver. Alors c'est peut-être pas la majorité, mais ça existe et c'est illégal. Donc on est quand même dans une grande hypocrisie.
Et c'est pas très facile en France parce que les seuls centres qui peuvent faire de la préservation sont ceux qui sont autorisés pour le cancer. Et il y en a finalement assez peu. Et ce que nous demandons, c'est que tous les centres, publics et privés, ça c'est évident, puissent faire de la conservation à la demande des femmes. Mais ça concernerait pas toutes les femmes. On entend trop souvent ça, en disant il y a 800 000, presque, il y en a moins, naissances en France, 400 000 femmes vont le faire. Pas du tout. Les données de l'INED montrent, et de l'INSE, que 76% des femmes ont fait leur premier enfant avant 35 ans. Vous avez déjà plus que 25%. Voilà. Et c'est même pas sûr qu'elles veuillent toutes le faire.
Mais non, il n'y aura pas un raz-de-marée, quoi. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas du tout ça. Et les femmes ne vont pas se précipiter là-dedans. Et elles vont y réfléchir avant d'y aller.
Juste avant qu'on retourne retrouver Christophe au standard, je me fais engueuler par une auditrice qui a raison et qui me dit arrêtez de dire faire un enfant, mais avoir un enfant. Elle a raison, Françoise. Et comme ça, c'est dit, je vais faire attention.
On le fait.
Oui, mais elle a raison, c'est plus joli. Allez, bonsoir Christophe.
Bonsoir, j'ai une petite question. Allez-y. J'aimerais savoir si en 2068, il sera possible de féconder faire une fécondation in vitro avec du matériel qui aura été congelé en 2018. C'est-à-dire, quelle est la date maximale de conservation? Est-ce qu'il y a un article de loi qui dit qu'à partir de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on arrête, on élimine ce qui a été congelé? Ça marche aussi pour les gamètes des hommes. Et j'aimerais savoir ce qui se passe en cas de décès du donneur ou de la donneuse.
Alors actuellement,
merci
là,
pour cette question, Christophe. Allez-y, Joël Bellec.
Alors d'abord, si on parle uniquement biologiquement parlant, il n'y a pas de limite. On peut congeler et conserver.
Il n'y a pas de date. On va dire les choses comme ça.
Péremption,
c'est ça.
Non,
c'est exactement
non. Okay. Sur le plan juridique, si l'homme décède ou en particulier quand il y a des embryons congelés, obligatoirement la femme n'a plus comme choix que de les donner à la science ou à un autre couple infertile ou de les détruire, mais ne peut pas les reprendre pour elle.
Et dans les autres pays autour, ça se passe comment pour l'instant? Est-ce qu'on sait ça
alors,
ou pas?
Si c'est la femme qui est décédée, personne n'imagine qu'une autre femme va porter un embryon qui provient d'elle. Si c'est l'homme, il y a des possibilités. Et vous le savez, il y a eu un exemple récent d'une femme qui a réussi à faire exporter pour pouvoir récupérer les embryons.
Est-ce que juridiquement, ce sont des questions qui se posent, des questions qu'on se pose ou pas?
C'est des questions qui devront être encadrées, effectivement. Tout ça échappe un peu à la loi, mais il y a des codes de bonne pratique. Et aujourd'hui, effectivement, lorsque une personne a conservé son sperme, puisque les hommes peuvent le faire très facilement, j'en profite pour le souligner, évidemment, lorsqu'il décède, normalement, mais on a vu que la jurisprudence a apporté quelques nuances sur ces questions-là, normalement, les paillettes sont détruites. À la mort, c'est détruit. Donc, on ne va pas pouvoir les conserver ad vitam aeternam.
Alors, on a évoqué le sujet un petit peu avant, de la pression de l'employeur ou pas. J'aimerais revenir là-dessus juste une seconde. Est-ce que c'est choquant pour vous, docteur Bellec-Schellard par exemple, quand Facebook, quand Google propose à ses employés de congeler leurs ovocytes, comme ça les filles, vous allez pouvoir travailler le plus possible pour nous, puis ensuite les choses pourront rentrer dans l'ordre.
Je suis contente que vous me posiez la question. C'est pas du tout choquant, parce que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça a été fait. Il faut se replacer dans le contexte des États-Unis. On a proposé aux femmes de leur prendre en charge leur congélation si elles le voulaient. Mais on est dans un contexte où peu de choses sont remboursées. Si une entreprise propose de payer les lunettes des enfants, c'est un plus. Si une entreprise propose de prendre en charge la rééducation physique après un accident, c'est un plus.
C'est pareil,
et là,
selon vous, prendre en charge
plus.
Les lunettes et prendre en charge la congélation de vos sites et la mettre sur le même plan.
Non, c'est pas à mettre sur le même plan, mais il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte des États-Unis. On n'est pas dans le contexte français. C'était un plus pour les femmes et non pas une obligation.
Est-ce que ça peut exister? Qu'est-ce qu'on dirait à une entreprise juridiquement parlant si elle proposait ça?
Avant de répondre à votre question, je voudrais qu'on dédiabolise un peu les États-Unis parce qu'on a parlé que de ces propositions qu'ont fait les GAFA, mais il faudrait que, par exemple, ces entreprises qui proposent à leurs employés de prendre en charge les frais d'autoconservation, elles proposent aussi des crèches, par exemple, in situ. Donc je pense que c'est au contraire, c'est un modèle. Elles proposent toutes les possibilités. C'est ça qu'il faut absolument, ce sur quoi il faut insister. C'est-à-dire qu'il ne faille pas pousser les femmes à mettre leurs ovocytes au frais, mais il faut leur offrir toutes les possibilités d'avoir une maternité quand elles le désirent. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place et ne pas diaboliser.
On sait que l'idée, c'était pas de leur dire ne faites pas d'enfants maintenant parce que ça ne nous arrange pas. Faites-les donc plus tard, les filles.
Mais une femme est beaucoup plus rentable quand elle est rentable, entre guillemets, pour l'entreprise, beaucoup plus active, beaucoup plus investie, si elle est un peu plus âgée. Il vaut mieux se séparer de la femme employée quand elle est un peu plus jeune et plus facilement remplaçable que quand elle occupe un poste vraiment important. Donc, c'est une mauvaise interprétation, c'est une, vraiment un faux procès qui est fait et ensuite utilisé par les détracteurs.
Alice nous demande sur franceinter.fr si le coût de la conservation des ovocytes, ne va pas créer des clivages sociaux entre celles qui ont les moyens et celles qui ne les ont pas.
Alors, le coût de la conservation, non, ça coûte pas très cher. C'est le coût de faire la ponction. Oui, c'est un vrai problème, mais c'est déjà ce qui se passe actuellement. Mais on pourrait envisager aussi qu'il y ait un comité de la sécurité sociale. Vous savez que parfois, puisqu'on prend souvent l'exemple de la chirurgie esthétique, certaines chirurgies esthétiques sont remboursées. D'autres ne le sont pas. La femme prend devant un comité d'experts et on lui dit qu'on pourrait envisager que si vraiment la femme ne peut pas le payer, elle passe devant ce comité et qu'elle puisse être prise en charge dans certains cas.
Mais pardon, Daniel, allez-y. Pour l'instant, j'allais juste demander, pour l'instant, est-ce qu'on peut faire une sorte de portrait robot? Est-ce qu'il y a un profil, en fait, des femmes qui réclament la congélation de
la femme de 35 ans, qui a souvent été abandonnée après une aventure qui s'est mal terminée avec son conjoint précédent, qui est toute seule et qui se dit, qu'est-ce que je vais faire si je rencontre quelqu'un et que je lui mets la pression tout de suite, je veux un enfant, il va se barrer à toute vitesse. Vous savez, on parle toujours de l'âge de la femme, mais l'âge de l'homme aussi augmente. Le désir tardif de l'homme, c'est une réalité. Les hommes hésitent à s'engager, à faire un enfant. On ne le dit pas assez souvent.
Et on parle, j'imagine, parce qu'il faut aller à l'étranger, du coup, de CSP+, voire plus. On parle de quel genre de profil social de ces femmes-là?
Forcément des SP++. Exactement. Je pense que, regardez, Larissa était une jeune femme qui a témoigné. Je pense que...
Non, parce que pour l'instant, il y a le coût du voyage.
Oui,
il y a le coût du voyage,
etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en mais enfin, aller en Belgique et aller en Espagne, bien sûr, c'est pas des frais trop énormes. Donc, non, justement, c'est peut-être pas tant les frais que le stress et tout ce qui est lié au fait que quand même... Parce que les femmes sont... Ça les dérange quand même un peu de faire quelque chose qui est interdit. Déjà, c'est pas facile. Et notre auditrice nous a raconté que c'était quand même... une procédure un peu difficile. Si en plus on a le sentiment qu'on veut quelque chose qui est illégal, c'est quand même assez lourd, je trouve.
Et est-ce que c'est une procédure qui se fait parfois en couple? Parce qu'on parle beaucoup là de femmes qui veulent attendre, de femmes qui se disent qu'elles viennent d'être larguées, donc ça va être compliqué pour le suivant. Est-ce qu'il arrive fréquemment ou pas, ou est-ce que c'est plus rare qu'un couple décide à deux que finalement l'enfant viendra plus tard?
Dans le cadre médical, d'une préservation de la fertilité avant chimiothérapie, avant traitement d'un cancer, oui. Dans les autres, ça arrive peut-être, mais moi je n'en connais pas. C'est pas ça.
Daniel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, une question sur l'information. Est-ce que les femmes sont suffisamment informées? Alors, ça leur met une pression encore supplémentaire, vous allez me dire, de dire il faut faire un enfant avant 35 ans parce qu'effectivement, après, on produit moins d'ovocytes. Mais néanmoins, est-ce qu'elles sont suffisamment informées? Est-ce que, par exemple, dans les cabinets des gynécos, il y a des petites pancartes qui disent attention, la production d'ovocytes, elle baisse à partir de 35-36 ans? Est-ce qu'il y a des informations précises qui leur sont fournies?
Elles commencent à être informées.
Mais elles
Elles le réalisent pas et elles disent elles-mêmes dans notre enquête qu'elles ont du mal à accepter ce changement. Elles savent pas que le pic de fertilité c'est 22 ans, elles pensent que c'est plutôt 27-28 ans. Donc déjà quand même il y a un décalage et ce qu'elles demandent c'est plus d'informations et elles voudraient que l'information vienne pas forcément des cabinets de gynécologues. Vous savez qu'aujourd'hui il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des gynécologues. Elles voudraient que justement les médias s'en saisissent et que l'information soit disponible quand elles ont envie.
Bah oui,
voilà.
Mais totalement.
Donc c'est ça qu'elles nous ont demandé en tout cas dans l'enquête qu'on a faite.
Allez-y.
Ce qui est amusant, c'est que plus les femmes sont diplômées, plus il y a un déni de cette chute de la fertilité qui est démontrée dans beaucoup d'enquêtes.
Mais c'est parce que partout, on voit mère est heureuse à 42 ans, à 43 ans, etc.
Il y a des idées fausses, et vraiment fausses. Les dames nous disent, mais regardez, j'ai une vie saine, je ne fume pas, je ne bois pas, donc j'ai 42 ans, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ben, malheureusement, c'est mieux d'avoir une vie saine, mais c'est pas pour autant qu'on fera son enfant à 42 ans. Et puis, juste un petit mot,
allez-y.
C'est que trop souvent, les patientes nous disent, moi je le savais quand elles ont 42, 43 devant nous, en larmes, quand on leur dit on peut plus rien, mais mon conjoint disait, on a encore le temps. Et je crois qu'il faut informer les femmes, mais il faut informer les hommes. Et j'ai jamais été interviewée par l'équipe ou par des journaux comme ça.
L'équipe, si vous nous entendez, Anne, bonsoir.
C'est un appel.
Bonsoir Anne.
Oui, allô.
Allez-y,
bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Oui,
soyez la
bonsoir,
bienvenue.
Merci de prendre mon appel, c'est très gentil. Ben moi, c'était juste, je voulais apporter un témoignage. Moi, j'ai 43 ans, je suis en parcours de don d'ovocytes à l'étranger. J'ai eu un enfant hein, à 34-35 ans, donc tardivement, mon premier enfant. On a voulu avoir un deuxième, bon ben pour les raisons qui ont été évoquées, on n'a pas toujours des relations de couple dès 25 ans. Et puis ben quand on a voulu avoir le deuxième, on est passé par fausse couche, insuffisance ovarienne, PMA en France, puis après ben on n'a plus le droit puisqu'on a passé un certain âge, donc
au-delà de 43 ans, c'est plus autorisé. Donc maintenant, on est dans ce parcours-là. Et je voulais dire qu'effectivement, si à l'époque, alors moi, effectivement, quand j'avais 30 ans, autant vous dire qu'on parlait pas du tout de conservation des ovocytes, hein, ça, ça fait très peu de temps que j'en ai entendu parler. Si effectivement à 30 ans j'avais eu l'information qu'on a aujourd'hui, je me serais peut-être posé la question. Et j'avoue que je m'interroge quand même sur ce qui fait hésiter, les comités d'éthique, enfin les choses que vous avez évoquées un petit peu en début d'émission, parce que comparé à ce que c'est ensuite un parcours de PMA, comparé à ce que c'est ensuite d'aller sur du don d'ovocytes, etc. Enfin, je pense que la question elle se pose même pas. Si on a la possibilité de le faire, qu'on a envie de le faire, il faut le faire. Enfin. C'est tellement compliqué psychologiquement, financièrement, etc. Par la suite. Bon, moi effectivement, et puis pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, l'insuffisance ovarienne à 38, 39 ans, effectivement, on n'est pas suffisamment informé. Moi, je pensais, j'avais des tas de copines autour de moi qui ont des enfants à 40 ans sans problème. Je me suis dit bon, bah le deuxième à 39 ans, ça devrait rouler puisque le premier ça avait roulé, il n'y avait pas de raison. Et puis en fait, ça n'a pas roulé du tout, quoi. Donc,
merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage. Effectivement, docteur Béla-Echalard qui dit informez-vous, c'est très important, effectivement.
Par contre, je voudrais insister sur la FIV n'est pas interdite en France. Après 43 ans, elle n'est plus prise en charge. Mais nous ne la faisons plus parce que les taux de succès avec les propres ovocytes sont vraiment trop bas. Les dernières données de l'Agence de biomédecine, c'est de l'ordre de 2% d'accouchement à 42 ans, 2, quelque chose. Donc, ça n'est pas interdit, mais ça n'a pas de sens.
Anne parlait du temps à l'instant. Depuis combien de temps, d'ailleurs, les congélations d'ovocytes sont autorisées chez nos voisins autour de nous ?
Alors, la vitrification ovocytaire s'est développée depuis les années 2000. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on avait une congélation lente de l'ovocyte qui n'était guère efficace. Et donc, c'était pas très dans l'air du temps. Depuis les années 2000, ça s'est bien développé en Europe. Et cette vitrification ovocytaire, elle est autorisée en France depuis la loi de 2011.
Une question sur France Inter. Vous vouliez intervenir ? Oui, allez-y.
Je trouve que ce qu'a dit Laurent. Oui, c'est très très important parce qu'il faut bien comprendre que justement on a un peu la procréation médicale assistée a laissé des illusions, enfin fait croire qu'on va faire des miracles. La médecine fait croire que on pourra repousser l'âge de la maternité parce que la technologie va intervenir. Ce que nous dit cette auditrice, c'est que effectivement elle a eu recours à des fécondations in vitro, donc à la procréation médicale assistée, que ça n'a pas marché et qu'elle a dû passer au don d'ovocytes. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'on a l'illusion que la science va pouvoir nous permettre d'avoir des enfants quand on veut. Mais justement, c'est pas vrai. C'est préventif, l'autoconservation des ovocytes.
Une remarque.
Oui, l'AMP n'est pas une baguette magique qui rajeunisse les ovaires. Nous, on dit l'AMP,
Bah oui, je sais bien, mais pour que les gens comprennent.
La PMA, l'assistance médicale à la procréation n'est pas une baguette magique, ça ne va pas rajeunir les ovaires. La seule solution alternative en ce moment, c'est le don d'ovocytes, et ce n'est pas une vraie solution. Autoconserver, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas la solution idéale. C'est la préservation de la fertilité.
Daniel Messager.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet qui revient, puisqu'on est en plein dans les discussions sur le renouvellement des lois de bioéthique, c'est un sujet qui revient souvent. On évoque effectivement la PMA pour toutes les femmes, puisque c'est ce qui a été mis en avant. C'est ce qui a été mis en avant, entre autres, par le comité d'éthique, puisqu'il s'y montrait favorable. En revanche, il s'est montré défavorable à l'autoconservation des ovocytes. Du coup, est-ce qu'on ne se dit pas, ça c'est un sujet quand même annexe et c'est pas ce qui doit arriver en priorité.
C'est bien pour ça qu'on est content d'en parler ce soir, parce qu'on a l'impression que le CCNE l'a mis de côté. Et comme c'est le comité national d'éthique qui fixe en quelque sorte le programme des états généraux de la bioéthique, on est quand même très inquiète, parce qu'on voudrait quand même pas que ce sujet soit complètement oublié, parce qu'il nous semble que c'est un sujet de société très très fort et qui concerne toutes les femmes.
Moi, je suis très favorable à l'ouverture aux femmes homosexuelles. Mais je leur fais confiance. Il y a un lobby, et elles vont se battre, et elles vont gagner. Je suis favorable à la GPA d'indication purement médicale, quand une femme a perdu son utérus. Mais j'espère encore qu'il y aura un lobby qui va se battre. L'autoconservation, ça concerne toutes les femmes, mais il n'y a aucun lobby. Donc on compte sur vous pour nous aider. Il n'y a que la presse, les médias qui peuvent nous aider. Il faut en parler.
Il y a une association qui vient de se constituer, de jeunes femmes qui viennent effectivement de monter une association pour défendre cette idée. Et je sais qu'elles ont été auditionnées par le comité consultatif national d'éthique.
Voilà, elles ont envoyé beaucoup de tweets aussi au cours de l'après-midi. Elles ont bien fait. Oui. Cette question sur franceinter.fr, quelles sont les recherches sur l'enfant né après congélation? Y a-t-il des études là-dessus au niveau du développement, au niveau du psychologique, etc.?
Oui.
Ça existe,
Joël Béla-Echalard? Oui, alors pas dans le cadre de l'autoconservation, mais dans le cadre de la vitrification ovocytaire, il y a des données. Ces enfants vont bien, il n'y a pas de souci.
Hugo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Hugo, on vous écoute.
Merci. Je vous appelle parce que depuis le début de l'émission, on parle de l'autoconservation de vos cils pour d'accéder à une première maternité. Vous avez beaucoup dit pour devenir mère. Et si on veut un enfant, on a un premier enfant qu'on a eu entre 25 et 30 ans, classique, et qu'on veut en avoir un, mais plus tard, avoir le deuxième à 35 ans ou au-delà. La question de la baisse de la fertilité se pose exactement de la même manière d'un point de vue médical, j'imagine. Alors, est-ce que ça pose d'autres problèmes éthiques, puisque c'est la question de ce soir, ou est-ce que les lois à l'étranger l'envisagent, celles qui existent, ou est-ce que c'est une question qui n'est pas posée ?
Hugo, merci pour votre question. Est-ce que c'est une question qui est posée, Joël Bélé?
Non, c'est ou pas alors une question qui est posée, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, sur... Je suis pour l'autoconservation, mais il y a deux mais, il faut pas la faire trop tôt. À 30 ans, toutes les femmes ont encore toutes les chances de rencontrer celui avec qui elles pourront le faire et d'en avoir l'opportunité. Je pense qu'après 35 ans, les chances de succès diminuent, donc il faut mieux le faire juste avant 35 ans, mais il n'y a aucune opposition à ce que ce soit dans le cas de pour le deuxième enfant.
Oui, que ce soit le cas de mon couple. Pourquoi pas?
Justement, on parlait de couple tout à l'heure, effectivement, c'est toujours rare d'y aller en couple et d'y penser en couple, mais enfin, pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce qui empêche? Alice, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Alice, on vous écoute, soyez la bienvenue.
Bonsoir, j'aimerais savoir si on sait si le comité d'éthique est composé majoritairement d'hommes ou de femmes, parce qu'il s'agit quand même la plupart du temps de lois qui concernent le droit des femmes à disposer de leur corps, et très souvent on voit que ces lois sont faites et sont votées et sont entretenues et sont appliquées par des hommes.
Merci beaucoup pour cette question, Alice. Et je vois que Laurence Brunet lève le doigt. Est-ce qu'on connaît la parité?
La composition est paritaire depuis quelques années. C'est récent, mais vous verrez...
Je viens de recompter le groupe de travail.
Effectivement, il y avait une parité. Mais certaines des femmes qui étaient dans le groupe qui a travaillé sur ces questions étaient défavorables à l'autoconservation. Hein. Et certains hommes étaient favorables. Bah donc, on le voit bien, il y a des opinions dissidentes qui sont publiées. Donc, c'est très intéressant de voir comment les groupes étaient composés. Donc, on sait exactement qui pensait quoi.
Le comité d'éthique, dans la version précédente 2009-2013, s'apprêtait à répondre d'un avis... Nous ne voyons pas de raison de l'interdire. Comment l'autoriser sans l'encourager? C'était vraiment une formule superbe.
Tiens, voilà ce message sur franceinter.fr. Au fond, il me semble que vous nous traitiez surtout des préoccupations de génération. Je veux et j'ai le droit, c'est ce que nous dit Christine. Question classique dans ce genre de débat, Joël Bélaïch, alors.
Ça n'est pas « je veux », c'est pas un droit à l'enfant. C'est un souhait, un désir et... On lutte tout le temps dans la médecine, passe son temps à lutter contre le vieillissement oculaire, cérébral. Il y a une façon d'essayer de lutter contre le vieillissement des ovaires et des ovocytes. C'est pas un droit, c'est essayer d'aider les femmes chaque fois que cela est possible, et les hommes, parce que finalement c'est le couple le plus souvent qui veut un enfant.
Allez, au risque de passer pour un réac, nous dit cet auditeur, je trouve que le monde qu'on est en train de nous fabriquer est effrayant, la toute-puissance et le refus du réel n'est pas une bonne chose. Accepter sa condition, nous dit-il, n'est-ce pas là notre travail ? Laurence Brunet, vous avez une minute.
Vous avez 4 heures.
Oui, accepter sa condition. Oui, mais la condition d'inégalité est complète. Alors, c'est-à-dire donc accepter que effectivement l'espérance de vie s'allonge, mais que les femmes peuvent pas vraiment en profiter puisqu'elle a une horloge biologique qui s'est pas du tout modifiée et donc elle devrait accepter ce genre de choses. Donc finalement, ça voudrait dire que les femmes devraient accepter effectivement de moins travailler ou voilà de d'éviter. Si on enlève toute la technologie, on revient quand même à des situations qui font un petit peu peur, quoi.
On a l'impression de revenir il y a longtemps en arrière, quand on n'avait pas de contraception, quand il était normal que les femmes souffrent en accouchement, quand on parlait de péridurale de confort. Il y a maintenant, dans la majorité de nos maternités, plus de 90% de péridurale, pas parce que nous poussons les femmes, mais parce qu'elles le veulent. Il y a des possibilités. La médecine est là pour lutter contre la nature quand la nature est notre ennemi. Bah, le temps, c'est l'ennemi des femmes, il faut bien le savoir.
Bon, mais... Pour répondre à cet auditeur, c'est pas parce que on va dans le sens de l'autoconservation des ovocytes et qu'il faut absolument l'ouvrir, qu'il faut pas que le gouvernement et les politiques nous aident aussi les femmes à avoir leurs enfants plus tôt. Et qu'il y ait des crèches avec des horaires plus flexibles, qu'il y ait des tas d'aides. Et on sait à quel point c'est important quand on compare avec ce qui se passe en Allemagne ou en Italie. On voit bien que les politiques publiques ont énormément d'importance.
En Allemagne et en Italie où le taux de natalité baisse parce que la difficulté de faire garder un enfant petit est énorme.
Voilà. Donc il s'agit pas d'être dans le tout technologique. On est bien d'accord. Je crois que c'est important ce que dit votre auditeur. C'est à la fois de vraiment concilier et d'associer les deux formes de progrès ou d'évolution, et c'est la technologie et la prise en considération aussi des rythmes biologiques de la femme. Il faut favoriser les deux, il ne s'agit pas d'exclure et de prendre que la voie de la technique.
Et il faut informer, il faut que les femmes choisissent en toute connaissance de cause. C'est évident que c'est plus facile de faire son enfant tout seul à 30 ans. Encore faut-il que les circonstances le permettent.
Là, je ne voudrais pas qu'on soit en train de paniquer. Joséphine qui nous écoute et qui nous écrit sur franceinter.fr et qui nous dit « Je ne me suis jamais posé cette question jusqu'à présent, ayant pourtant 29 ans et pas vraiment de désir d'enfant. Mais je commence à paniquer. Est-ce inconscient de ne pas prendre ses dispositions dès maintenant et l'assurance de galérer pour tomber enceinte après 30 ans ?» On va peut-être rassurer Joséphine en lui disant qu'elle a du temps pour réfléchir,
à 29
Joséphine.
Ans, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, à 29 ans, il n'y a pas d'urgence. On est fertile et on a toutes les chances de rencontrer celui avec qui on souhaite un jour faire un enfant. C'est vers 35 ans, juste à ce moment-là, qu'il faut se poser la question.
Alors, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que dans tous les témoignages que nous avons ici, contrairement à ce que vous disiez à l'instant sur les crèches, etc., la question qu'on se pose, c'est la difficulté de rencontrer quelqu'un après un certain âge, c'est après une rupture, etc. Mais la question sur « c'est plus difficile pour mon travail », etc., ne rentre pas en ligne de compte vraisemblablement, ou en tout cas a l'air totalement secondaire en fait.
C'est ce qu'on vous disait, hein, toutes les enquêtes et tous les questionnaires montrent, c'est pas l'image de la femme carriériste. Il faut supprimer cette image. C'est que les hasards de la vie font qu'elles n'ont pas pu faire leur enfant avant, qu'elles n'avaient pas la personne avec qui le faire.
Il ne s'agit pas d'acte carriériste. Ça, vraiment, les femmes s'inscrivent en faux quand ce terme apparaît. C'est juste, effectivement, trouver un travail comme les autres, comme les hommes, pouvoir profiter
homme,
et ensuite trouver une compagne ou un compagnon, puisque je pense que la situation peut se poser aussi pour des couples de même sexe, pour des couples de femmes. Si.
Daniel Messager, que je voulais faire oui comme ça avec
mais,
la tête.
Oui, non, mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi la France est une espèce d'îlot alors qu'elle est entourée de pays où c'est autorisé et qu'on demeure cette espèce d'îlot où c'est interdit. J'ai un peu de mal à
parce
comprendre
que cette évolution juridique,
de société ou cette non-évolution de société.
C'est le cadre juridique qui a été inscrit en 94, inscrit comme dans du marbre, avec ses articles 16 et suivants du Code civil qui sont une espèce de charte bioéthique et qui repose sur l'idée qu'il y a une indisponibilité du corps et une indisponibilité de l'identité. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très inscrit.
Mais le cadre juridique, au fond, c'est nous qui le faisons quand même, notre cadre juridique au bout du bout, enfin, à un moment. Donc pourquoi effectivement on est en retard sur plein de choses?
Parce que la loi, c'est l'AMP est destinée à pallier une infertilité médicalement constatée d'un homme et d'une femme. Et c'est totalement différent, effectivement, là, ce qui se passe. Donc la loi, elle est gravée dans le marbre. Et puis, je suis d'accord avec une de vos auditrices, jusqu'ici, quand même, la majorité des gens qui faisaient les lois étaient quand même plutôt des hommes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Est-ce qu'il y a eu des débats, justement, dans les pays voisins, dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ceux qui nous sont proches? Est-ce que ça s'est fait, j'allais dire, comme une lettre à la poste?
L'autoconservation,
oui. Par exemple.
Il y a eu des débats sur les femmes seules, mais sur l'autoconservation.
Comme une lettre à la poste.
C'est, voilà.
Exactement.
Il n'y a que nous qui nous posons cette question, parce qu'on est prisonniers de l'AMP ou la PMA, comme vous dites, est destinée à une infertilité médicalement constatée.
Voilà, je vous posais la question parce qu'effectivement, nous, on était en train de débattre, on avait débattu du mariage pour tous, on sait dans quelles conditions, on va débattre de la PMA pour les femmes homosexuelles, on sait dans quelles conditions, on va débattre de la GPA, on sait aussi dans quelles conditions. On a l'impression aussi qu'on est tout seul à descendre dans la rue pour ce genre de sujet-là, ou en tout cas très moins nombreux que nos voisins, y compris tout aussi catholiques que sont les Italiens, que sont les Espagnols.
Mais ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue, c'est ça qui fait la différence, justement.
Allez, ce sera le mot de la fin de ce téléphone sonne. Il y a eu beaucoup d'appels. Merci beaucoup, merci à tous d'y avoir participé.